19h, bonsoir et bienvenue dans l'émission Droit Devant, émission proposée et préparée par les groupes angevins d'Amnesty International sur Radio G, 101.5 FM, un jeudi sur deux. Merci de nous retrouver pour cette demi-heure consacrée aux droits humains. Pour animer cette émission aujourd'hui, il y a Philippe. Bonjour Philippe.
Bonsoir, ravi de vous retrouver.
Et bonsoir également à Pierre, à la technique.
Bonsoir à tous.
Dans cette émission, nous accueillerons Dorine de l'association Asile et Partage. Et puis nous parlerons de l'actualité et nous écouterons deux chroniques, celle de l'antenne jeune d'Amnesty Angers ainsi que celle de Céline. On finira bien évidemment par l'agenda militant et culturel. Mais tout d'abord, on commence par l'édito de Philippe, tu vas nous parler de Total Energy.
La multinationale Total Energy est devenue un symbole. Elle émet autant de gaz à effet de serre que l'ensemble des Français et Françaises et n'a pas payé un seul euro d'impôt sur les sociétés en 2019 et 2020. Depuis le début de la guerre en Ukraine, le cours de son action a même augmenté d'environ 30%, plus 90% en 10 ans, permettant aux géants pétroliers d'enregistrer en 2022 un bénéfice net record de 19 milliards d'euros, en partie tiré d'importations gazières depuis la Russie.
Et certains de ces projets dans le monde sont fortement contestés.
Au Yémen, la filiale de Total a stocké les rebuts de l'exploitation pétrolière dans de simples bassins creusés dans le sol et équipés de bâches en plastique, permettant à l'eau toxique de s'infiltrer dans la terre. Une soixantaine de Yéménites ont donc lancé devant la justice française une action en réparation contre la multinationale suite à des fuites de pétrole qui ont saccagé les terres de leur région. Une première audience se tiendra le 1er février au tribunal judiciaire de Nanterre.
Mais en Ouganda aussi, il y a un projet titanesque qui a vu le jour.
D'ici à 2025, la compagnie compte forer 400 puits de pétrole en bordure du lac Albert, une des plus grandes étendues d'eau douce d'Afrique. Pour exporter le pétrole extrait de cette immense infrastructure baptisée Tilenga, Total Energy veut construire jusqu'au littoral tanzanien un oléoduc de 1445 km qui sera chauffé à 50 degrés. Les travaux de ce méga projet ont débuté en juillet 2023. Ces deux projets impliquent des déplacements massifs de population. En juin dernier, 26 Ougandais et 5 associations ont déjà lancé devant la justice française, sur la base du devoir de vigilance, une loi adoptée en 2017, une action contre Total. Alors que quelques centaines de personnes refusent toujours de céder leurs terres, le 8 décembre, la justice ougandaise a ordonné l'expulsion de 42 familles.
Et les projets ne s'arrêtent pas là.
Total Energy et Saudi Aramco, le plus gros groupe pétrolier mondial, ont annoncé conjointement la construction d'un complexe pétrochimique géant en Arabie Saoudite. Pompeusement baptisé Amiral, ce site de taille mondiale représente un investissement colossal de plus de 10 milliards d'euros pour un démarrage prévu en 2027. L'objectif de cette méga-usine ? Fabriquer des matières plastiques à partir de pétrole. Celles-ci sont en effet issues à 99% de composés fossiles.
Mais alors pourquoi les pétroliers misent-ils aussi gros sur le plastique ?
Eh bien c'est simple, les ressources en énergie fossile s'épuisant. Et voulant anticiper sur la fin progressive des moteurs à essence, les multinationales cherchent de nouveaux gisements de croissance pour valoriser leurs barils de brut. Et donc utiliser le pétrole pour produire les matériaux plastiques présents dans les emballages, les ordinateurs, les smartphones, les détergents, les vêtements, s'avère particulièrement juteux car la demande explose.
Pourtant, le plastique constitue l'une des principales menaces pour la planète.
Hélas oui, aujourd'hui une tonne de plastique finit dans l'océan toutes les 3 secondes. Selon le programme de l'ONU pour l'environnement, les plastiques représentent au moins 85% du total des déchets marins. 1,4 million d'oiseaux et 14 000 mammifères marins meurent tous les ans à cause de l'ingestion de ces produits. Par ailleurs, les microplastiques sont désormais omniprésents dans la chaîne alimentaire humaine. Ce matériau constitue également une menace grandissante pour le climat. L'industrie du plastique est la source de gaz à effet de serre industriel qui connaît la croissance la plus rapide au monde.
Et que font les grandes puissances face à cette catastrophe ?
Pour ainsi dire, rien. Les 15 et 16 avril dernier, les ministres du G7 en charge du climat et de l'énergie se sont engagés à mettre fin à la pollution plastique avec l'ambition de réduire à zéro toute pollution supplémentaire d'ici à 2040 avec la mise en place d'un traité juridiquement contraignant. Des engagements qui apparaissent bien faibles au vu des investissements monstres et des futurs profits escomptés de Total Energy et Saudi Aramco dans l'industrie du plastique.
Merci Philippe. Et vous êtes toujours dans Droit Devant sur Radio G 101.5 FM. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Dorine, alors qui représente ce soir l'association Asile et Partage. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir.
Bonsoir Dorine.
Bonsoir.
Est-ce que tu peux commencer par nous présenter alors ton association ?
Alors Asile et Partage, c'est une association qui accompagne sur le territoire angevin des jeunes non accompagnés, des mineurs non accompagnés, étrangers qui n'ont pas été reconnus mineurs par le conseil départemental et qui se retrouvent donc à la rue sans ressources et sans aucune aide étatique et institutionnelle. Ce sont des jeunes qu'on rencontre lors d'une permanence juridique au Secours catholique le mardi après-midi. Secours catholique qui se trouve dans la même rue que le conseil départemental. Donc une fois mis à la rue par le département, ils se retrouvent à venir dans nos locaux. Pour faire court, notre association, elle est composée uniquement de bénévoles, d'aucune subvention étatique. On fonctionne uniquement via des dons de particuliers ou nos propres recettes, on y viendra après. Et elle accompagne aujourd'hui donc des jeunes qui, pour beaucoup, sont venus en France pour un rêve d'une meilleure vie ou pour fuir différentes problématiques dans leur pays d'origine par les voies migratoires qu'on connaît et donc très traumatisantes, avec beaucoup de rêves, c'est-à-dire le premier d'abord d'être scolarisé et d'avoir une vie plus digne que chez eux. Donc nous, nos missions, c'est concrètement, on pallie au manque de prise en charge étatique, donc en les scolarisant, pour beaucoup dans des formations professionnelles et professionnalisantes, donc pour leur apprendre des métiers. On leur cherche aussi des solutions d'hébergement, donc il y a une partie des jeunes, une vingtaine, qui vivent dans un squat à la périphérie d'Angers, et d'autres qui sont hébergés dans des familles solidaires qui acceptent d'ouvrir leurs portes à ces jeunes. On les nourrit évidemment via d'autres associations et puis on leur propose tout simplement un soutien et d'être là avec eux pour qu'ils ne soient pas tout seuls dans toutes ces épreuves qu'ils traversent encore en arrivant en France.
Mmh. Alors vous êtes venu il y a 2 ans dans l'émission, tu es venu il y a 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé en 2 ans ? Ça va mieux ?
Alors il s'est passé beaucoup de choses, je sais pas si ça va mieux ou moins bien, on accompagne toujours autant de jeunes avec toujours aussi peu de moyens malheureusement. Ce que je peux dire, c'est que les jeunes sont toujours aussi méritants et ont toujours autant envie de s'en sortir. Donc depuis 2 ans, on a des jeunes qui ont pu être diplômés, des jeunes qui heureusement pour certains ont obtenu leur titre de séjour après 4, 5, 6 voire 7 ans de galère sur Angers. Et puis malheureusement d'autres jeunes qui, malgré le parcours qu'ils ont pu faire, n'ont pas obtenu leur titre de séjour. Et là, je dirais que pour eux comme pour nous, honnêtement, c'est très compliqué. On se sent très impuissant parce que c'est des jeunes qui, voilà, ont eu pour certains 2 voire 3 CAP dans des métiers en tension tels que la restauration, le bâtiment, l'aide à la personne, qui sont intégrés en France, qui ont des amis, qui font du sport, qui sont ici et qui se chantent chez eux ici et que nous, on aimerait aussi pouvoir garder avec nous, mais qui pour autant ont des refus de titre de séjour sur des motifs tels que pas de femme, pas d'enfant, mais ils ont 20, 21, 22 ans, donc est-ce qu'on peut leur reprocher ça ? Donc voilà, donc du coup, je dirais que ça, c'est notre grande difficulté, c'est de se sentir impuissant avec eux sur leur non-réussite à la préfecture, alors qu'ils ont fait tous les efforts possibles pour y arriver.
Et je pense qu'il faut parler de la récente loi immigration. Est-ce que cela va aggraver considérablement leurs conditions de vie, leur statut ?
Oui, je dirais que cette loi, elle est complètement inhumaine et elle vient précariser encore plus un public qui l'était déjà avant le passage de cette loi. Aujourd'hui, cette loi, elle vient à nouveau et clairement montrer que la vie de certaines personnes vaut moins que la nôtre, notamment en tant que Français, et qu'effectivement, il va falloir aujourd'hui encore plus redoubler d'efforts pour pouvoir être régularisé et que le fait de pas avoir de papier sera encore plus un délit qu'il ne l'est aujourd'hui, alors qu'en fait, ces jeunes et moins jeunes sont déjà purement handicapés par leur situation administrative, c'est-à-dire ne pas avoir le droit de travailler, ne pas avoir le droit de vivre dignement dans un logement, de ne pas avoir le droit de se soigner correctement avec cette nouvelle loi qui veut supprimer aussi ce droit-là. Donc en fait, je dirais que tous les droits qu'ils pouvaient avoir encore un petit peu aujourd'hui où on pouvait essayer de les soutenir, et ben même pour nous, ce sera plus difficile de les accompagner si tout est fermé de partout.
Oui, justement, je voulais rebondir sur ce que vous avez dit là. Est-ce que vous observez, par exemple, des séquelles psychologiques suite à leur parcours ou bien à leur situation?
Je dirais que ces jeunes, ils sont... Alors j'ai envie de dire que c'est presque des héros, ils sont très très forts, parce que je conseillerais à toutes les personnes qui nous écoutent d'aller voir le film Moi Capitaine, qui est en ce moment au cinéma.
On en parle tout à l'heure, on va en parler.
Voilà, ça tombe bien. Ce film, mais aussi les échanges qu'on peut avoir avec les jeunes, ils retracent très très bien tout ce qu'ils ont pu traverser pour arriver jusqu'ici, c'est-à-dire la traversée de la Méditerranée, pour beaucoup les tortures en Libye. Et ce qui est violent, je trouve, c'est qu'ils peuvent dire que jusqu'à l'arrivée ici, ils ont quand même toujours l'espoir de s'en sortir, mais qu'en fait, ce qui fait le plus mal, c'est même pas les traumatismes qu'ils ont vécu pendant tout ce trajet, c'est plus d'arriver ici et de voir les portes complètement fermées pour eux. C'est-à-dire que, voilà, ils ont espéré beaucoup de choses et qu'en arrivant, c'est pas aussi simple que ça, et c'est pas la fin du parcours, c'est même le début d'une autre histoire qui se crée. Donc ces jeunes, honnêtement, je trouve que ils sont très forts pour réussir quand même à essayer de s'en sortir malgré tous ces traumatismes-là. Et on voit que l'obtention des papiers, ça, voilà, ça vient soulager énormément pour eux. Et...
Et vous avez beaucoup de familles qui hébergent ces jeunes?
Alors, on a quelques familles. La difficulté qu'on a, c'est que Angers, ça reste une ville qui n'est pas non plus énorme. Le réseau de personnes militantes n'est pas énorme non plus. Et on a quand même des familles qui, heureusement, jouent le jeu d'héberger ces jeunes. Mais on en aurait encore besoin de davantage, c'est sûr.
Oui.
Donc, tu as parlé du Secours catholique. Donc ça, c'est une coopération plutôt, on va dire, en amont. Hein, c'est avant. Mais tu as parlé aussi d'autres associations pour la nourriture, etc. En fait, vous travaillez beaucoup en coopération avec plein d'autres associations.
On pourrait pas travailler tout seul. C'est-à-dire que le Secours catholique, c'est la porte d'entrée des jeunes. C'est aussi, même pendant la prise en charge, parce que c'est le Secours catholique qui gère toute la partie administrative et juridique pour faire valoir notamment leur minorité auprès du juge pour enfants. C'est aussi le Secours catholique qui va pouvoir les aider à constituer leur demande de titre de séjour une fois la majorité arrivée. Et puis après, il y a effectivement des associations comme le Secours populaire, les Restos du Cœur et la Banque alimentaire qui, effectivement, nous permettent d'avoir des dons de nourriture pour les jeunes. Et puis, le Greffe a été pendant un moment aussi une association qui permettait aux jeunes d'apprendre le français quand ils n'étaient pas scolarisés. Donc oui, c'est sûr qu'Asile et Partage, c'est une association parmi tant d'autres qui vient soutenir ces jeunes-là.
Et puis, vous avez besoin, bien évidemment, de moyens financiers. Donc, il y a peut-être des actions bientôt organisées, des choses comme ça, pour pouvoir récupérer de l'argent.
Alors, chaque année, l'association organise des concerts avec des repas, notamment préparés par les jeunes. On essaye aussi d'être visible sur les réseaux sociaux, notamment pour faire des appels à dons via notre cagnotte et l'OASO. Parce que c'est vrai que sans moyens, c'est difficile d'accompagner ces jeunes-là, et on tient beaucoup aussi au fait de pas avoir de subventions étatiques.
Oui,
ça nous laisse libre aussi de nos mouvements. Et après, il y a des grandes fondations aussi qui peuvent des fois faire des dons. Emmaüs fait partie des associations qui nous a soutenus depuis le début et qui continuent à nous soutenir.
Et est-ce que ces jeunes sont intégrés, par exemple, dans des associations sportives ou bien de associations, je sais pas, théâtrales ou ils vivent une vie sociale?
Oui, alors les jeunes, ils ont évidemment un cœur de faire du sport. Donc il y en a certains qui sont dans des clubs officiellement avec des licences quand on arrive à les financer.
Ah, c'est cher.
Oui, voilà, c'est toujours le même problème. Et après, il y a Solisport, là, récemment, qui vient de nous permettre de faire du sport gratuitement à pas mal de jeunes.
Ah oui, mais ça, c'est une bonne chose.
Oui.
Donc vous avez besoin donc de moyens financiers et puis aussi de bénévoles.
Oui, alors on a besoin de moyens financiers effectivement pour pouvoir continuer nos actions qui portent leurs fruits, puisque c'est grâce à cet accompagnement-là que les jeunes finissent par, pour certains, avoir des papiers et devenir autonomes, et c'est la plus belle des réussites pour eux comme pour nous. Et on a besoin de familles qui hébergent, parce qu'effectivement ces jeunes-là, ils peuvent être scolarisés, mais s'ils sont à la rue, c'est pas possible.
Donc ils doivent être hébergés, mais pendant toute une période scolaire en fait.
Alors après, on voit avec les personnes qui se proposent, on s'arrange entre nous de savoir qu'est-ce qui, elles, leur est possible et qu'est-ce que nous, on peut aussi proposer, ça se discute.
Oui, semaine, week-end, oui. Enfin des choses comme ça. Très bien, bah alors comment peut-on vous contacter?
Alors, on a une page Facebook donc, qui s'appelle Asile et Partage 49. On a l'adresse mail asileetpartage@gmail.com. Et voilà.
Et tu parlais de la cagnotte
LOASO. Oui, alors c'est une cagnotte sur LOASO, Asile et Partage aussi, Angers.
Et c'est facile à trouver.
Oui.
Merci beaucoup.
Ben, merci et bravo pour tout ce que vous faites.
Merci. Oui.
On se retrouve après une pause musicale. D'endroit devant sur Radio G 101.5 FM. Vous venez d'écouter la délicieuse chanson Sweet About Me de Gabriella Silmi. Et puis c'est l'heure d'écouter maintenant pour ce début d'année 2024 la chronique de Céline.
Bonsoir Valérie. Nous sommes en 2024. En janvier 2024. Il y a quelques jours, nous réunissions l'équipe des Jokers qui héberge celles et ceux qui n'ont pas de toit pour la nuit. Et nous nous sommes aperçus que SOS Migrants aura 10 ans au mois de juin. 10 ans, Valérie. 10 ans que des citoyens pallient les manquements des collectivités en matière d'hébergement d'urgence. 10 ans de colère, de se dire que des enfants, des femmes, des hommes sont encore à la rue, dorment encore à la rue à Angers, et que rien ne va en s'améliorant. 10 ans 10 ans d'alerte répétée, d'interpellation, de dénonciation de ces situations indignes, toujours indignes. Comme celle survenue il y a une semaine, quand le département du Maine-et-Loire décide de ne plus prendre en charge 3 jeunes mineurs non accompagnés. 3 jeunes qui ont subi une sortie sèche, comme on l'appelle. Une sortie d'hôtel sans accompagnement à la suite, c'est-à-dire sans hébergement. Et cela, malgré l'activation du plan Grand Froid. Ils n'ont pas trouvé de place. Les jokers les ont accueillis. 10 ans de combat, d'éveil citoyenne devant la halte de nuit de la rue Rouchy, au chemin de traverse, avec une équipe présente chaque soir. Jusqu'à l'engagement si fort de ceux qui ouvrent leurs portes. Et c'est aussi 10 ans de fraternité et d'humanisme. 10 ans de rire, de fou rire, des cocasseries que provoque l'incompréhension de la langue de l'autre, de dessins géants à la craie avec les enfants sur le trottoir, ou de lecture des histoires de l'ours Paddington. 10 ans de fatigue allégée, de nuits offertes, de sourires retrouvés un temps, loin de l'angoisse de l'insécurité du lendemain. 10 ans de rencontres et de chaleur humaine. Alors, je voudrais pour ce mois de janvier nous souhaiter des vœux. Que ces 10 ans ne se reproduisent pas. Rêve insensé, tu me répondras, et tu auras bien raison. Alors, souhaitons une bonne année à SOS Migrants et à sa formidable machine à humanité. Et moi, je nous souhaite une belle année de combat.
Belle année de combat à tous et à toutes. Allez, c'est maintenant l'heure des actualités d'Amnesty International et des droits humains. Et pour bien commencer cette nouvelle année, nous avons tenu à vous relayer des informations porteuses d'espoir sur lesquelles Amnesty, notre organisation, s'est mobilisée aux quatre coins du monde.
Tout d'abord, en 2023, des personnes injustement emprisonnées ont été libérées. Ainsi, en Afghanistan, Mortaza Behboudi, un journaliste franco-afghan, a été libéré après plus de 9 mois de détention. Les talibans l'avaient injustement accusé d'espionnage. Dans ce même pays, Mathieu Laweza a également été remise en liberté. Elle a passé plus de 7 mois en prison pour avoir critiqué la politique des talibans qui interdit aux filles de poursuivre leur scolarité en secondaire.
Mais aussi en Iran, Philippe, Yasaman Ariani a été libérée après 4 ans de prison. Cette jeune femme, souvenez-vous, elle avait été condamnée pour avoir distribué des fleurs dans le métro de Téhéran à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes et pour avoir retiré son voile. Et c'est pour cet acte qu'elle a été conduite en prison. 4 ans de prison. Yasaman Ariani est devenue un véritable symbole de la lutte pour les droits des femmes en Iran.
En Égypte, Mohamed El-Bakr a été libéré à la faveur d'une grâce présidentielle après 4 ans de détention arbitraire. Il était emprisonné uniquement en raison de son travail pour les droits humains. Et enfin, en Turquie, 4 militants des droits humains, dont Taner Kılıç, l'ancien président d'Amnesty Turquie, ont été acquittés après 6 ans d'acharnement judiciaire. Car c'est bien parce que ces militants étaient engagés dans des organisations de défense des droits humains que les autorités turques les avaient pris pour cible.
Et on va parler maintenant des lois positives adoptées en 2023. Ainsi, au Mexique, l'avortement a été dépénalisé. Et la Suisse a modifié sa loi sur le viol pour y intégrer une définition fondée sur le consentement. Le Conseil national suisse reconnaît aujourd'hui que tout rapport sexuel contre la volonté d'une personne est un viol.
En Malaisie, la peine de mort a été abolie pour 7 infractions. Les tribunaux vont ainsi réexaminer les condamnations de plus de 1000 condamnés à mort. Et en Argentine, le Congrès a approuvé la loi Olympia qui vise à prévenir les violences faites aux femmes en ligne et à amener les responsables à rendre des comptes.
L'Union européenne est parvenue à un accord sur le devoir de vigilance des entreprises. Une première, ce texte novateur exige des entreprises ayant des activités dans les pays de l'UE qu'elles remédient aux atteintes aux droits humains et aux dommages environnementaux liés à leurs activités. Cette législation permettra d'offrir une nouvelle voie de recours aux personnes impactées par les actions des entreprises. Ils devraient faire ça aussi pour Total en Afrique.
Bien sûr. En juin, l'Assemblée générale des Nations unies a créé une institution internationale indépendante chargée de faire la lumière sur le sort des dizaines de milliers de personnes portées disparues en Syrie. Une institution qui offrira une voie unique pour enregistrer les cas et permettra aux familles d'obtenir les réponses tant attendues sur le sort de leurs proches.
Ces bonnes nouvelles qui nous font du bien nous donnent des raisons d'espérer et nous rappellent plus que jamais l'importance de nous mobiliser pour la défense des droits humains. Et maintenant, c'est l'heure d'écouter la chronique de nos trentaines jeunes d'Amnesty Angers. C'est une chronique culturelle aujourd'hui.
Bonjour à tous, nous sommes heureux de revenir cette semaine avec cette chronique spéciale animée par l'antenne jeune d'Amnesty Angers. Au programme, la prestation d'un film récompensé à la Mostra de Venise, aux Golden Globes, en passant par les Césars, Moi, capitaine. Une réalisation presque documentaire retraçant le parcours de deux jeunes Sénégalais cherchant à rejoindre l'Europe. Moussa et Seydou, 16 ans, sont prêts à tout pour rejoindre le vieux continent avec l'ambition de pouvoir réussir dans la musique. Une Europe de toutes les promesses que leur fait miroiter en partie les réseaux sociaux, ce qui les pousseront à prendre tous les risques en quête d'une vie meilleure. Matteo Garonne, avec un film road trip, redonne un visage à cette immigration, humanise ce que l'on réduit souvent à de simples statistiques. Matteo Garonne est le réalisateur du film Gomorra, relatant de la Camorra, la mafia napolitaine, et de Pinocchio. Il avoue lui-même avoir mélangé les deux styles à travers des personnages candides et optimistes qui découvre l'horreur du chemin vers l'Europe. J'ai eu la sensation d'être dans un équilibre acrobatique entre Gomorra et Pinocchio, se confie-t-il. Le réalisateur nous emporte à travers cette longue odyssée, parsemée de paysages majestueux comme le désert du Sahara. Le spectateur se retrouve dans une dichotomie assez troublante entre la qualité artistique des images et la démonstration de l'enfer de ce funeste parcours. Le spectateur doit oublier l'artifice, il doit vivre ce voyage sans jamais sentir notre présence, témoigne le réalisateur. Une mission réussie pour Matteo Garonne, puisque le ressenti est davantage celui d'un documentaire que celui d'un film. Une portée documentaire qui nous montre la négation des droits humains pour ces migrants, parfois mineurs. Après s'être sorti non sans dommage du désert du Sahara, transporté comme du bétail dans des pick-up de passeurs, Seydou et Moussa doivent faire face au pays de tous les dangers, la Libye. Un pays qui occupe une grande partie du film. Comme en témoignait le rapport d'Amnesty International en 2022, en Libye, les réfugiés et migrants sont soumis de façon systématique et généralisée à des atteintes aux droits humains, aux mains d'agents de l'État ou de milices armées. Détentions illégales, tortures et esclavage, Matteo Garonne n'a pas voulu épargner le spectateur en montrant la réalité des prisons libyennes, nous rappelant les pires époques du commerce triangulaire. En bref, ce film cru, dans le style Garonne, nous ouvre les yeux sur le parcours tragique des migrants subsahariens, que l'on a tendance à oublier. Un film qui célèbre ceux que l'on a trop souvent tendance à repousser, en leur rendant hommage comme de véritables héros. Nous avons donc qu'un seul conseil à vous donner, foncez le voir en salle.
Nous sommes toujours dans Droit Devant sur Radio G 101.5 et c'est le temps de l'agenda militant et culturel.
Dimanche 21 janvier, un rassemblement aura lieu à Angers contre l'indigne loi Asile et Immigration. Le lieu et l'horaire sont encore à préciser.
Le 25 janvier à Mur-et-Rignier, un ciné-débat avec le film L'école de la vie au centre culturel Jean Carmé. Ce documentaire nous fera découvrir des personnes de tous âges et de toutes origines qui se mobilisent pour améliorer l'éducation des enfants grâce à des actions simples, cours d'empathie, écoute active, psychologie positive, outils pédagogiques novateurs. Un film pour semer des graines d'espoir et d'inspiration.
Le 27 janvier à 20h30 au Théâtre de l'Ardoise à La Pouèze, la compagnie Djougad jouera la pièce de Frédéric Sabrou, Diète Partie. Les recettes seront reversées à Sainte Solidarité, une association laïque qui vient en aide aux personnes sans domicile fixe et aux migrants.
Et n'oubliez pas d'aller au 400 coups pour aller voir le magnifique film « Moi, capitaine ». Il est déjà presque 19h30, c'est le temps de conclure cette émission et de remercier Dorine pour sa venue. D'ici là, n'hésitez pas à réécouter cette émission en replay sur le site www.radio-g.fr. Vous pouvez également nous rendre visite sur Facebook à amnesty.angers. Excellente année 2024. 2024, année de combat. Rappelez-vous, sur les ondes de Radio G.
Bonne et heureuse année, sereine et solidaire.